Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Jean-Guilain Meige.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nous allons nous infiltrer aujourd'hui dans l'intimité des chambres à coucher. Deuxième épisode de notre série sur l'économie de la famille. Après avoir dévoilé hier les calculs inconscients qui sous-tendent le désir d'enfant, nous nous penchons aujourd'hui sur les finances du couple et sur les rapports de force qui sont à l'œuvre. L'amour n'échappe pas aux lois du marché et le jeu de la concurrence accompagne insidieusement les couples de la première rencontre jusqu'à la rupture. L'argent qui consolide les unions ou qui contribue au contraire à l'instabilité des relations amoureuses. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous parlons de l'économie du couple en compagnie de Pierre-André Chiappori en duplex de New York, économiste, professeur à l'université de Columbia et co-auteur de Economics of the Family paru chez Cambridge University Press, en compagnie également de Céline Bessière avec nous en studio, sociologue, professeur à l'université Paris-Dauphine au laboratoire Iriso et co-autrice de cet ouvrage Au tribunal des couples, enquête sur des affaires familiales paru chez Odile Jacob. À 14h50, on retrouvera Xavier Martinet qui nous présentera son journal de l'écho.
Tout comme le libéralisme économique sans frein, et pour des raisons analogues, le libéralisme sexuel produit des phénomènes de paupérisation absolue. Certains font l'amour tous les jours, d'autres 5 ou 6 fois dans leur vie, ou jamais. Certains font l'amour avec des dizaines de femmes, d'autres avec aucune. C'est ce qu'on appelle la loi du marché. Dans un système économique où le licenciement est prohibé, chacun réussit plus ou moins à trouver son compagnon de lit. En système économique parfaitement libéral, certains accumulent des fortunes considérables et d'autres croupissent dans le chômage et la misère. En système sexuel parfaitement libéral, certains ont une vie érotique variée et excitante, d'autres sont réduits à la masturbation et à la solitude. Le libéralisme économique, c'est l'extension du domaine de la lutte. Son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société. De même, le libéralisme sexuel, c'est l'extension du domaine de la lutte, son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société.
Bonjour Pierre-André Chiappori et Céline Bessière.
Bonjour. Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'est avec l'extension du domaine de la lutte de Michel Houellebecq, publié en 1994, que nous ouvrons cette émission, extrait d'un atelier fiction diffusé sur France Culture. L'amour ou le sexe a toujours été et demeure un marché, Pierre-André Chiappori ?
Oui, enfin, il y a deux aspects. D'une part, est-ce qu'il y a des réalités économiques dans la formation des couples et dans leur dissolution ? Oui, évidemment. D'autre part, est-ce qu'il n'y a que ça ou même, est-ce que c'est l'essentiel ? Probablement pas. Mais je pense qu'il est fécond d'étudier les phénomènes de la famille d'un point de vue économique aussi.
Votre regard, Céline Bessière, sur le marché de l'amour ?
Oui, alors je partage ce constat aussi. C'est intéressant de s'intéresser aux aspects économiques et sur le marché de l'amour. Ben pour nous, sociologues, ça fait longtemps qu'on a un mot pour désigner ça qui s'appelle l'homogamie, c'est-à-dire que le fait que les hommes et les femmes ne se mettent pas en couple avec n'importe qui, mais avec d'autres hommes et d'autres femmes qui leur ressemblent socialement. Du point de vue économique, du point de vue de l'argent, mais aussi plus largement du point de vue des caractéristiques sociales. Donc les ouvriers ont plus de chances d'être en couple avec des employés et les cadres supérieurs d'être en couple avec des femmes cadres supérieurs.
Et c'est de plus en plus le cas
C'est, oui. Disons que ça se maintient.
Pierre-André Chiappori.
On a beaucoup travaillé là-dessus. Je pense qu'effectivement, il est important de parler d'homogamie. Parce que l'homogamie, c'est un phénomène qui a des répercussions très importantes à long terme, en particulier pour un sujet que nous, économistes, on a beaucoup étudié, qui est l'investissement, vous me pardonnerez le jargon, en capital humain des enfants. En fait, si vous regardez aussi bien la croissance économique que la formation des inégalités, un rôle énorme est joué au niveau de l'enfance et au niveau notamment des investissements qui sont faits par les parents sur leurs enfants. En fait, c'est quelque chose qui va conditionner tout le futur et qui va conditionner dans une large mesure la structure de la société. C'est vrai d'ailleurs pour les sociétés développées et probablement encore plus pour les sociétés en développement.
Alors cette question de l'enfant, effectivement, c'est une question qu'on a beaucoup traitée hier. Mais ce que je trouve intéressant, Pierre-André Capori, pardon de vous interrompre, c'est cette comparaison que vous faites entre le marché de l'amour et le marché du travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ?
Écoutez, d'un point de vue, pour un économiste, il y a un certain nombre d'avantages économiques liés au mariage, au sens où la vie est probablement plus facile par bien des aspects lorsqu'on est en couple que lorsqu'on est tout seul. Il y a des choses qui sont évidentes, c'est ce que nous économistes appelons les biens publics, c'est par exemple le fait que pour un logement, il est plus facile de trouver un logement pour deux que deux logements pour un. Il y a des aspects de partage du risque, etc. Mais l'aspect qui, à mon avis, est le plus important et devient de plus en plus important, c'est le temps qu'on va passer sur les enfants pour les former, pour les éduquer et pour leur permettre d'entrer dans la vie avec le meilleur bagage possible. Et c'est pour ça que la notion d'homogamie est centrale parce que d'après ce que nous avons trouvé, et on a travaillé sur les États-Unis, hein, donc je ne voudrais pas parler de la France, mais il y a de plus en plus d'homogamie, en particulier en haut de la distribution, donc les gens les plus éduqués ont toujours eu tendance à épouser des gens éduqués, mais c'est de plus en plus le cas. Ils investissent de plus en plus dans le capital humain de leurs enfants, ce qui fait que la génération suivante aura encore plus d'inégalités, d'opportunités que la génération précédente. Il y a une espèce de spirale d'inégalités qui pourrait se créer.
Et c'est important ce que vous avez souligné, Pierre-André Capori, sur l'idée que le mariage correspond à un calcul coût-avantage. C'est déjà ce que l'économiste Gary Becker avait montré, Céline Bessière. Et aujourd'hui, il y a des études qui montrent qu'à revenu égal, le niveau de vie d'un couple est 1,5 fois plus élevé que celui de deux célibataires.
Oui. Alors, la manière dont vous présentez les choses depuis le début, c'est une vision des économistes. Nous, en tant que sociologues, ce qu'on va peut-être apporter, c'est qu'on va réfléchir à ces questions-là, aussi en intégrant les sentiments, les affects. Et c'est pas pour dire que il n'y a pas des enjeux économiques, mais tout ça est très intriqué. C'est-à-dire que les enjeux économiques sont totalement intriqués dans les enjeux affectifs et émotionnels. Donc, en effet, il y a des avantages à vivre en couple. Ce sur quoi moi je voudrais insister, c'est les différences aussi pour les hommes et les femmes à cette situation d'être en couple.
Alors, on va y revenir, bien sûr, mais effectivement, la question qui se pose, Pierre-André Capori, c'est jusqu'à quel point est-ce qu'il est question de rationalité économique dans le choix de se mettre en couple ? Quelle est la part de cette rationalité économique ?
Vous savez, on a un peu une vision, on a souvent une vision caricaturale de l'économie qui présenterait les gens comme faisant des calculs compliqués dans leur tête en se disant quelle est la personne que j'ai intérêt à épouser. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Ce que je remarque, c'est que ce que nous disons maintenant, c'est-à-dire il y a des raisons économiques de se marier, c'est quelque chose que les historiens, d'ailleurs les sociologues, disent depuis très longtemps. Vous regardez l'école des annales, il y a des analyses du mariage qui, sans nier les aspects personnels, individuels, etc., mettent en avant de façon très claire des logiques patrimoniales, des logiques d'alliance entre clans, etc. Donc cette idée que le mariage correspond aussi à des intérêts, au sens économique, mais c'est au sens large, c'est pas forcément des intérêts financiers, lorsque une personne éduquée épouse un conjoint très éduqué, simplement parce qu'il se dit c'est vraiment la femme dont j'ai envie que pour être la mère de mes enfants, c'est pas ce que j'appellerais un calcul économique rationnel. Néanmoins, il y a une ça peut être complètement affectif. Je pense que ce qui vient d'être dit est tout à fait vrai. Les deux sont totalement imbriqués. Il n'empêche que ça a des conséquences économiques très très importante.
Céline Bessière.
Oui, et ce que nous sociologues on ajoute à ce tableau, c'est que tout ça se joue dans la vie des individus, dans les lieux où ils se rencontrent. Donc ça, c'est des résultats des années 80 de François Héran et Michel Bozon. Les hommes et les femmes se rencontrent et tombent amoureux dans des lieux particuliers qui ne sont pas les mêmes si on est un ouvrier ou un futur médecin. Et ces lieux aussi et la manière dont on perçoit son conjoint, ce qui va plaire chez l'autre, ce qui va plaire chez les, pour les hommes chez une femme et pour une femme chez un homme, est façonné par le milieu social dans lequel on vit.
Les sites et les applications mettent au défi ces imaginaires qui sont, par exemple, cette idée forte que l'amour est aveugle, l'amour devrait être désintéressé, que la rencontre est fortuite et quelque part qu'on devrait être l'objet de l'amour, c'est-à-dire l'amour nous tombe dessus plutôt qu'on va aller le chercher. Donc la recherche active de partenaires est déjà quelque chose qui est considéré suspect. Je pense que s'il y a toujours cette appréhension envers ces services, c'est que ces imaginaires-là, ils ont vraiment une longue histoire. C'est un produit du système matrimonial, si vous voulez, ou de l'amour romantique qui émerge comme un code au 19e siècle, qui est du coup le fruit de notre manière d'envisager les relations intimes aujourd'hui, est toujours très présent. Et ça explique aussi pourquoi les petites annonces, pourquoi les agences matrimoniales, pourquoi le Minitel n'ont jamais vraiment marché, justement parce que eux aussi, ils allaient à l'encontre de ces imaginaires amoureux. Donc quand les sites et les applications sont apparus, de fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont été l'objet des mêmes critiques que les agences matrimoniales 100 ans avant eux, avec cette idée que c'est une rationalisation inédite, que c'est le marché qui entre dans le domaine de l'amour et que ça, par définition, ça corrompt nos relations intimes.
La sociologue Marie Bergström, invitée de la Grande Table sur France Culture en juin dernier, les logiques économiques qui sous-tendent les unions existent, mais on veut qu'elles restent de l'ordre du non-dit, Céline Bessières.
Oui, alors Viviana Zelizer a bien parlé de ça. Elle dit en fait que dans notre pensée occidentale, on pense en mondes hostiles. Il y aurait d'un côté l'économie et puis de l'autre côté les relations affectives et donc les relations familiales. Et que nous, individus, en fait, nous passons beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à différencier ce qui serait de l'ordre de l'affectif, du familial et ce qui serait de l'ordre de l'intérêt par peur que les intérêts économiques ne viennent corrompre nos relations affectives. Mais Viviana Zelizer ajoute quelque chose, c'est que en fait, en réalité, les transactions intimes, c'est son terme, sont totalement banales. C'est-à-dire qu'en il y a de l'économique de part en part dans la famille. La famille est une institution économique de part en part. On donne de l'argent de poche à ses enfants. Un père va donner une pension alimentaire à son ex-épouse qui a la charge des enfants. On va faire les courses, acheter un appartement.
Ça peut être le lieu d'une redistribution et ça peut être le lieu de la solidarité, Pierre-André Capori.
Oui, alors dans les bénéfices qui sont liés, les bénéfices économiques du mariage ou d'ailleurs de la cohabitation ou de l'union, on peut entrer dans les détails. Il y a par exemple le partage de risques. Ça, c'est quelque chose de bien connu. Si vous regardez l'impact d'un choc économique majeur, une récession comme on en a eu il y a une dizaine d'années, c'est un impact énorme sur les revenus individuels. L'impact sur le revenu des ménages est plus faible parce qu'il y a de la compensation et l'impact sur la consommation est encore plus faible. Et en fait, vous voyez que lorsque l'un des conjoints est frappé par le chômage, l'autre conjoint peut réagir en travaillant plus, en faisant des heures supplémentaires, etc. Donc il y a des phénomènes de partage des risques, de partage des ressources, etc. qui jouent un rôle. Et vous savez, je suis très frappé par tout ce qui a été dit. C'est profondément vrai. Et je pense que c'est lié au fait que les gens ont une vision de l'économie qui est très monétaire. Vous savez, l'économie, c'est très simple. C'est cette idée que les gens sont, Boudon disait, intentionnels. C'est-à-dire que les gens ont des objectifs et que les actions qu'ils font sont en général en cohérence avec ces objectifs. Ce qui veut dire que si nous voulons comprendre leurs actions, il est important de comprendre leurs objectifs.
Et ce qui va être intéressant à souligner, c'est si ce sont les hommes ou les femmes qui retirent plus d'avantages économiques justement à cette union. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que le fait de contribuer sur le plan économique à la vie du foyer a une incidence sur les rapports de force au sein du couple, Céline Bessières.
Oui. Alors, il y a aussi l'économie qui est reconnue et puis l'économie qui est moins reconnue. Donc, le constat que nous faisons avec Sybille Golac, c'est que, et après de nombreuses autres chercheuses féministes qui ont travaillé sur ces questions, c'est que les femmes travaillent, mais leur contribution économique à la production est peu reconnue. Donc, elles assurent toujours deux tiers du travail domestique. Ce qui fait qu'on pourrait dire que les hommes sont dépendants économiquement du travail des femmes.
Mais est-ce que ce travail
que
des femmes
sont dépendantes financièrement des revenus des hommes qui, eux, travaillent aussi, mais on reçoive une contrepartie monétaire davantage que les femmes pour leur travail.
Mais ce travail croissant des femmes, est-ce que ça ne participe pas justement à rééquilibrer le rapport de force?
Alors, je ne suis pas d'accord avec votre expression de travail croissant. Les femmes ont toujours travaillé, elles ont toujours beaucoup travaillé.
Participation des femmes au marché du travail tel qu'il
existe. Au marché du travail salarié et rémunéré. Mais si on prend des données de l'INSEE et qu'on compte, qu'on met sur le même plan le travail domestique et le travail professionnel, les femmes travaillent plus en fait. Les femmes en heures de travail par semaine travaillent plus que les hommes. Simplement, elles font beaucoup plus de travail domestique qui n'est pas rémunéré.
Et pour le dire donc, autrement, le fait de contribuer économiquement davantage à la vie du foyer, est-ce que ça ne participe pas à rééquilibrer le rapport de force dans le couple ?
Alors, rééquilibrer le rapport de force, ça dépend à quel moment. Moi, j'ai beaucoup étudié avec d'autres, avec l'équipe du collectif 11, on a étudié le moment des séparations conjugales. Et le moment des séparations conjugales est un moment terrible pour les femmes parce que c'est le moment où elles s'appauvrissent beaucoup plus que les hommes, et elles s'appauvrissent précisément parce que c'est créé cette inégalité économique dans le couple, au moment du couple, avec tout ce travail qu'elles ont fourni, travail parental, travail domestique, qui n'a pas été rémunéré. Et pendant que l'un accumulait, l'autre travaillait sans accumuler. Et au moment des séparations conjugales, eh bien, c'est là qu'on fait les comptes. Et c'est là qu'on se rend compte qu'elles ont perdu au change.
Pierre-André Capuri, sur ce que change cette place croissante des femmes sur le marché du travail?
Oui, alors d'abord, absolument d'accord. Il y a toujours eu un travail énorme des femmes. Qui ne donnait pas lieu à un contrat de travail ou à une rémunération. Mais d'ailleurs, Gary Becker avait suggéré que dans le calcul du PNB, on introduise le travail domestique parce que c'est un travail qui est extraordinairement important. Si je reviens en capital humain, l'avenir de nos sociétés dépend énormément de cet investissement qui est fait par les parents, mais surtout par la mère sur les enfants.
Le alors, capital humain qu'il faut peut-être redéfinir, qui peut être la
alors,
santé, l'éducation.
C'est l'ensemble des capacités, des connaissances, des talents qui rendent un individu apte à produire de façon plus efficace et à produire de la richesse en un sens général, pas seulement en un sens salarial. Alors il y a une évolution très clairement. D'abord, il y a le phénomène, je parle surtout des États-Unis, mais ça c'est vrai un peu partout, le phénomène marquant des 40 dernières années, c'est une augmentation absolument frappante de l'éducation des femmes. Pour vous donner juste un chiffre, aux États-Unis, on considère de différents niveaux de formation. Et dans les formations, au-delà des études secondaires, il y a les formations courtes, 2 ans, il y a les formations de bac plus 4, ce qui s'appelle college aux États-Unis, et puis il y a tout ce qui est au-delà, tout ce qui est diplôme de médecine, diplôme de droit, MBA, etc., thèse. Le nombre de femmes qui ont le diplôme, le pourcentage des femmes dans la population qui ont le diplôme le plus élevé était de l'ordre de 4% dans les années 70-80, et maintenant c'est à 12%, donc ça a été multiplié par 3.
Et alors, est-ce que ça se traduit par une augmentation des salaires?
Eh bien, pas vraiment.
Ah oui, Alors, c'est une autre histoire, les inégalités. Mais ce qu'on constate, c'est que si vous regardez les couples américains maintenant, vous avez, la majorité des couples au niveau d'éducation, ils ont environ 45% des couples au niveau d'éducation, et même pour l'homme et la femme. Mais dans ceux dans lesquels le niveau d'éducation n'est pas le même, vous avez plus de couples dans lesquels la femme est plus éduquée que le mari, que l'inverse. Au niveau des revenus, les femmes continuent à travailler un peu moins sur le marché du travail. Elle continue d'ailleurs à travailler nettement plus sur tout ce qui est production domestique, etc. Mais l'écart se resserre. Hein. On voit ça très clairement. Et puis, surtout, dans cette augmentation de l'activité des femmes, on a du coup, maintenant on commence à avoir pas mal de couples dans lesquels les femmes gagnent plus que leur mari.
Réagir Céline Bessière.
Oui. L'écart de prise en charge du travail domestique se resserre, mais extrêmement lentement. Pour vous donner un chiffre, 2010 en France, les femmes travaillent en moyenne chaque semaine 54 heures, qui comprennent 34 heures de travail domestique et 20 heures d'activité professionnelle. Ce sont des couples avec enfants, hein, dans les couples avec enfants. Et dans ces mêmes ménages, les hommes travaillent 51 heures, donc on voit qu'ils travaillent un peu moins, soit 3 heures de moins par semaine, et ils consacrent en moyenne 18 heures aux activités domestiques, donc 18 heures à comparer avec 34 heures, et 33 heures à des activités professionnelles. Voilà, ça c'est la France de 2010, des couples oui. avec enfants. Et sur les revenus, je voudrais ajouter quelque chose, l'écart moyen dans les couples, c'est 42%. Les femmes en couple gagnent 42% de moins que les hommes en couple. Donc certes, il y a plus de femmes plus diplômées, mais la situation très majoritaire, ce sont des hommes qui gagnent davantage que leurs conjointes.
Sur ce sujet, je vous propose d'écouter le philosophe François de Smet au micro d'Olivia Gesbert sur France Culture.
L'économie du couple, elle est en général implicite. Généralement, il y en a quand même un qui gagne davantage d'argent que l'autre. Dans ce cas-là, celui qui gagne de l'argent, sans que ce soit jamais dit, en général, prend un peu plus sa part, non pas dans les dépenses ménagères, mais dans des choses un peu plus extraordinaires, un peu plus de vacances, un peu plus de restaurants. Et il y a un phénomène aussi intéressant, c'est que quand c'est madame qui gagne plus, qui arrive, c'est pas le plus courant, mais cela arrive, il y a des mécanismes d'implicite qui servent à préserver l'ego masculin. C'est-à-dire que la femme en général ne met très rarement en avant qu'elle gagne davantage, elle ne fait pas de cadeaux onéreux, elle investit davantage cet argent dans l'économie du couple. Il y a des tas de choses fascinantes, parce que c'est du non-dit, c'est de l'implicite, mais échange, il y a, et bien sûr, il n'est pas seulement monétaire ou matériel, okay. des sentiments, des gestes affectifs, des relations sexuelles, tout ce qui peut s'échanger.
Dans les années 80, 12% des femmes gagnaient plus que leurs conjoints. Ce taux a doublé pour atteindre 24% en 2014. Que vous inspirent ces propos de François de Smet, Pierre-André Capori ?
Ah ben écoutez, je suis absolument d'accord. Il y a eu énormément de travaux sur ces questions. Prenons une question très simple. Dans pratiquement tous les pays, les allocations familiales sont payées à la femme. Est-ce que ça fait une différence? Et quand j'étais étudiant, la formation que j'ai eue en économie reposait sur des modèles qui implicitement supposaient que ça ne pouvait pas faire de différence. La seule chose qui comptait, c'était le budget total, etc. Tout notre travail depuis 30 ans, ça a été justement de développer des modèles qui explique comment ça peut avoir un impact et qui essaye de quantifier ça. Je voudrais juste citer un exemple qui est particulièrement frappant parce que il vient de quelqu'un qui a été à l'honneur pas plus tard qu'hier, c'est Esther Duflo qui a reçu le prix Nobel. Alors elle a reçu le prix Nobel pour ses travaux sur le développement et en particulier sur les interventions visant à promouvoir le développement, mais elle a écrit un très très bel article dans lequel elle étudie le cas de l'Afrique du Sud. Elle prend l'exemple particulier d'une réforme du système de minimum vieillesse. Il y avait un minimum vieillesse qui était pour les Blancs, qui était situé à un niveau très bas. À la fin de l'apartheid, le minimum vieillesse a été étendu à toute la population, et pour la population noire, le niveau qui pour les Blancs était et ne touchait que peu de gens, s'est trouvé toucher une fraction importante de la population. Vous avez des ménages dans lesquels il y a de l'argent qui est littéralement tombé du ciel, et suivant les conditions, ça pouvait aller aux grands-mères ou aux grands-pères. Et ce qu'elle regarde, c'est quel est l'impact que ça a sur la santé des enfants. Et elle prend des indicateurs qui sont des indicateurs, on parle de pays en voie de développement, donc c'est pas combien d'argent de poche ils auront, c'est vraiment le nombre de calories qu'ils auront, est-ce qu'ils auront de la malnutrition, etc.
Et donc tout dépend de qui prend en charge cet argent, qui l'utilise.
Alors ce qu'elle trouve, c'est que elle a la causalité est difficile à établir, mais elle montre de façon très convaincante que quand ça va à la grand-mère, il y a un énorme impact, notamment sur les petites filles. Elle rattrape la moitié de l'écart avec l'enfant américain moyen. Quand ça va au grand-père, on voit aucun impact.
Céline Bessière.
Moi, je voudrais parler de la France d'aujourd'hui et introduire peut-être des différenciations selon les classes sociales. Parce que là, on a parlé des écarts entre les hommes et femmes au sein des couples, mais c'est pas du tout la même chose d'être un couple très riche ou d'être un couple beaucoup moins fortuné. Et ce qu'on sait, c'est que dans les classes populaires, encore aujourd'hui, l'argent, c'est une question de femmes. Ce sont les femmes qui font les comptes, ce sont les femmes qui gèrent les crédits, qui gèrent les impayés, les retards pour le paiement du loyer, le retard de la facture EDF, qui gèrent les papiers et qui gèrent toutes ces questions d'argent.
Pour quelle raison ?
Et c'est là qu'on peut se dire, est-ce que dans ces couples qui ont peu d'argent et qui ont des problèmes d'argent, est-ce que c'est avoir du pouvoir que de s'occuper de la gestion de l'économie domestique? Et en fait, c'est un pouvoir très paradoxal, puisque c'est aussi beaucoup de contraintes en réalité. Et ce qu'on sait, par les travaux d'Anna Perrin-Heredia, de Camille François, aussi les travaux de Matthew Desmond aux États-Unis, c'est que les femmes pauvres qui gèrent l'économie domestique, puis il y a toutes ces femmes aussi à la tête de familles monoparentales, qui sont des femmes seules, vont beaucoup se sacrifier pour leurs enfants. C'est-à-dire qu'elles ont moins dépensé pour elles-mêmes. On a eu plein d'exemples au moment du mouvement des Gilets jaunes, de femmes qui ont raconté ça. Comment justement, elles n'allaient plus au restaurant, elles ne s'achetaient pas de chaussures, elles ne s'offraient aucun plaisir personnel parce que elles voulaient avant tout assurer pour leurs enfants.
Les mères seules, effectivement, en tant que les mères célibataires sont une catégorie de population particulièrement touchée par la pauvreté en France. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, André Capori, c'est que les couples mariés optent de plus en plus pour la séparation des biens. On assiste vraiment à une tendance, à une individualisation de la richesse, peut-être dans le but de se protéger pour l'avenir.
Alors oui, ça va de pair avec le fait que les revenus et l'éducation ont tendance à être de moins en moins asymétriques entre l'homme et la femme. C'est-à-dire, si vous prenez l'image d'Épinal de le mari qui fait des études de médecine et c'est la femme qui est infirmière qui finance ses études en travaillant à temps plein, c'est un modèle qu'on voyait à l'œuvre il y a une quarantaine d'années, qui est dans une certaine mesure encore là, encore qui est bien moins de spécialisation par sexe maintenant, mais c'est un modèle qui est vulnérable au divorce. C'est un modèle dans lequel quel intérêt a la femme à financer les études de son mari si dès qu'il devient médecin, il divorce et il part avec une femme plus jeune.
Donc oui, plus de séparation des biens qui serait liée au fait que les femmes ont des salaires plus importants, Céline Bessière?
Non, en fait, j'avais pas tout à fait fini tout à l'heure, excusez-moi, c'est que dans les couples fortunés, et ça on le voit avec les enquêtes du type l'enquête patrimoine, plus le couple est fortuné, plus ce sont les hommes qui s'occupent de l'argent et qui s'occupent du patrimoine. Et l'individualisation des patrimoines dont vous avez parlé il y a un instant, d'abord, c'est un terme de Nicolas Frémaux et de Marion Le Turc. Et en fait, cette individualisation, elle caractérise les couples non mariés. Quand on est non marié, chacun gère son patrimoine. Et elle caractérise également les couples mariés qui font de la séparation de biens. Mais ce ne sont pas n'importe quel couple marié qui font de la séparation de biens. Ce sont, d'une part, les couples les plus fortunés. Et ce que montrent Nicolas Frémaux et Marion Le Turc, c'est que ce sont également les couples où il y a le plus fort écart à l'intérieur du couple et bien souvent en faveur de l'époux par rapport à l'épouse. Donc ça veut dire très concrètement que ce mécanisme d'individualisation du patrimoine chez les plus riches favorise, protège la fortune des hommes, et ça se ressent au moment des séparations conjugales puisque chacun repart avec sa part du patrimoine dans le cas d'un contrat de mariage en séparation de biens.
Et comment on explique cette tendance à de plus en plus de séparation des biens ou de régime des biens distincts dans le cadre de couples mariés, Céline Bessière?
Alors d'une part, ça s'explique par le fait qu'il y a de plus en plus de couples non mariés. Ça explique une grande partie de l'individualisation des patrimoines. Quand on n'est pas marié, ben, on a chacun son patrimoine. Et à l'intérieur des couples mariés, il y a le conseil des professionnels du droit. Donc les notaires vont vous conseiller, si vous avez une entreprise, si vous avez une fortune familiale, ils vont vous conseiller immédiatement. D'abord, vous avez des chances d'aller rencontrer un notaire au moment de votre mariage et le notaire va vous conseiller de faire une séparation de biens, avec l'idée que les couples aujourd'hui, et le mariage aujourd'hui, c'est pas pour toute la vie. La probabilité de se séparer est importante, la probabilité d'un divorce est importante, et donc il faut protéger votre patrimoine.
Et on va voir justement dans un instant comment ces inégalités de patrimoine se révèlent encore plus importantes et déterminantes au moment de la rupture.
Il faut qu'on se revoie. Tu sais, depuis mardi, j'ai beaucoup pensé à toi.
Je suis joignable au 06 06 06 06 le soir, chez moi.
J'ai passé une nuit délicieuse, même si j'ai un peu la migraine. Tu es belle quand t'es odieuse. Je te dis à dans une semaine.
Je rêve de ton corps, je rêve de ta bouche. Je te veux près de moi, je veux que tu me touches. Je rêve de ta peau et de tes mains. Je ne pense qu'à toi, je bosse plus, je fous rien.
Mon amour, tu dormais si bien que j'ai pas osé te réveiller. Je travaille jusqu'à 7h20, si tu veux après on peut s'appeler. Je sais pas ce que tu fais ce soir, moi j'ai rien de prévu. Si t'as du travail, je te dis à plus tard et j'embrasse ton cul.
Je suis enceinte. Une baguette, crevettes, trois avocats, sopalin, tampons normaux, produits vaisselle, lait demi-crémé bio, ciseaux bio, sac poubelle 50 litres.
D'une écriture différente sur du papier en tête, FXOR 75 LP, MG vu 3 fois par jour. Après Alzolam 0,50 MG, 6 prises par jour maximum, puis une signature informe suivie d'un caducée.
Je te rappelle que tu as un fils qui va à l'école tous les matins et qui aimerait bien prendre le petit déjeuner avec son père de temps en temps. Salut.
La visite est à 16h, il y a encore plein de trucs à toi dans le bureau du fond. Tu veux sans doute les récupérer. Appelle-moi, mon nouveau numéro 06 62 73 49 63.
C'était Brandt Rhapsody de Benjamin Biolay et Jeanne Chéral sur France Culture. D'entendez-vous l'écho et nous parlons de l'économie du couple en compagnie de l'économiste Pierre-André Chiappori en duplex de New York et de la sociologue Céline Bessière. Alors on a parlé des inégalités de revenus entre les hommes et les femmes, des inégalités de patrimoine. Un mot sur ces inégalités de patrimoine, Céline Bessière. Est-ce que, comment on peut les expliquer et notamment comment l'histoire peut nous permettre davantage de les expliquer?
Alors, bon, déjà, il y a les inégalités de patrimoine qu'on connaît bien, qui sont très importantes entre les classes sociales. Mais il y a une inégalité qui est moins connue, moins documentée, c'est l'inégalité de patrimoine entre les hommes et les femmes, parce que cette inégalité de patrimoine se joue à l'intérieur des familles, alors que tous les instruments qu'on a pour mesurer les patrimoines, qui sont les enquêtes statistiques de l'INSEE ou bien les données fiscales, portent sur des ménages ou portent sur des foyers fiscaux qui sont justement une unité familiale. Donc c'est pour ça qu'on connaît moins de choses sur l'inégalité patrimoniale entre les hommes et les femmes à l'intérieur de la famille. Il y a eu un certain nombre de travaux récents menés en France, notamment par Nicolas Frémaux et Marion Le Turc, qui montrent que l'inégalité patrimoniale entre les hommes et les femmes en France aujourd'hui tend à s'accroître. Alors, en partie du fait de l'individualisation des patrimoines dont on parlait il y a un tout petit instant. En fait, on a un système légal en France avec le mariage de la communauté de biens, le régime légal qui est celui de la communauté de biens réduite aux acquets, est un régime, donc par l'existence de la communauté, qui tendait à protéger les femmes qui avaient des revenus moins importants que leurs conjoints. Et du fait qu'il y a de plus en plus de couples qui ne se marient pas, et comme on l'a dit, des couples fortunés qui font des contrats de plus en plus de séparation de biens, eh bien le régime légal de la communauté est moins protecteur pour les femmes et ça peut expliquer une partie de cet accroissement de l'inégalité patrimoniale.
Si on entre un petit peu dans le détail, Pierre-André Chiappori, on se rend compte que les hommes déclarent plus d'actifs financiers que les femmes, mais que pour ce qui concerne les biens immobiliers, ils sont détenus à part plus égale entre les deux conjoints. Comment est-ce qu'on explique cet état de fait?
Oh, écoutez, je connais mal les données françaises, hein, mais pour ce qui est des actifs financiers, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que la décision d'une part de se marier ou pas, et d'autre part d'établir ou non un contrat de mariage, qui sont des choses qui existent à peu près dans tous les pays, c'est aussi une décision qui reflète une certaine évolution. C'est-à-dire, les gens choisissent de ne pas se marier et les gens choisissent, quand ils se marient, de faire un contrat. Donc, ce qui est intéressant, c'est essayer de comprendre quelle est la logique qui fait que maintenant, d'une part, les gens se marient moins et d'autre part, les gens ont plus tendance à faire des contrats.
Je précise simplement, Pierre-André Chiappori, pour les auditeurs, que faire un contrat, ça veut dire mettre en place un régime des biens distincts, contrairement au régime par défaut.
C'est-à-dire, enfin, ça peut être plus compliqué que ça, mais c'est écrire un contrat de mariage qui prévoit exactement ce qui se passerait en cas de dissolution du couple, par opposition au fait d'utiliser par défaut le système légal, qui en France est le système de communauté réduite aux acquis. Ce qui est intéressant aux États-Unis, d'ailleurs, c'est que d'une part, il y a 50 États et que les États ont eu et ont toujours des régimes différents en ce qui concerne le divorce. Et par ailleurs, il y a eu pas mal de changements. Par exemple, il y a un demi-siècle, la plupart des États avaient un système de divorce par consentement mutuel et ils sont passés à des systèmes de divorce unilatéral. Et de même, il y a eu des évolutions assez marquées sur le partage des biens en cas de divorce, en particulier d'une part sur les options qu'on considère par défaut et d'autre part sur les décisions des tribunaux. On a pu avoir, ça c'est plutôt en Angleterre, mais des situations dans lesquelles les tribunaux ont désavoué un contrat de mariage explicite. C'est-à-dire, un contrat de mariage disait clairement l'homme doit sortir de la relation avec tout ce qu'il avait en entrant. Et les tribunaux ont considéré qu'il y avait là une injustice et ils se sont prononcés en faveur d'un partage plus égal. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de regarder ces changements du régime législatif, quel impact ça a sur le divorce. Non seulement sur le nombre de divorces, mais aussi sur qui sont les gens qui divorcent et aussi sur le niveau d'homogamie.
En l'occurrence, pour ce qui est de la France, Céline Bessière, on a un taux de divorce qui s'est stabilisé ces dernières années?
Oui, qui s'est stabilisé, mais à un niveau élevé.
40% des mariages environ?
Oui, alors c'est assez compliqué parce qu'il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne se marient pas, donc on rapporte le nombre de divorces au nombre de mariages, mais en gros il y a beaucoup de gens qui se séparent, ça c'est une réalité absolument indéniable. Le droit est en apparence, enfin plus qu'en apparence, le droit est formellement égalitaire, c'est-à-dire que si on compulse le code civil, le droit ne favorise pas les uns par rapport aux autres.
On peut citer la loi de 85, par exemple, qui assure l'égalité des époux dans la gestion des biens de la famille, par exemple.
Oui, voilà. Donc ça, vous avez raison de rappeler que ce sont des conquêtes récentes, le fait que le droit de la propriété soit égalitaire pour les hommes et les femmes. 1985, c'est la fin de ce processus. Donc ce sont des conquêtes récentes, mais aujourd'hui, le droit est formellement égalitaire. Mais ce que on a constaté avec Sybille Golag, c'est qu'il y a le droit et puis il y a la pratique du droit. Et la pratique du droit au moment des séparations en matière patrimoniale, en fait, il y a assez peu de, ça va assez peu au tribunal. Les couples les couples font assez peu de contentieux sur la question de qui va garder la maison ou comment on va répartir les biens patrimoniaux du couple. Les objets de contentieux, c'est beaucoup plus les pensions alimentaires, le droit de visite et d'hébergement pour un enfant. Ce sont ça les deux principaux sujets de contentieux, mais assez peu sur les enjeux patrimoniaux. Et tout simplement, tout ça va se gérer beaucoup dans le couple et puis chez certains professionnels du droit.
Donc, ce qui va désavantager les femmes ?
Alors voilà, chez certains professionnels du droit qui sont les notaires et les avocats, et vont se gérer de façon très, on pourrait dire, pragmatique, c'est-à-dire qui peut garder la maison. Qui peut garder la maison, c'est-à-dire aussi qui peut supporter le crédit pour continuer à rembourser le crédit de la maison. Et en fait, étant donné l'inégalité de revenus entre les hommes et les femmes, eh bien, ça, on a découvert récemment que, en fait, les hommes gardaient bien plus souvent la maison que les femmes. Dans les cas de propriétaires, les gens qui sont propriétaires de leur, les couples qui sont propriétaires de leur logement, ce sont les hommes qui ont davantage la possibilité de la garder. Et du coup, la question va être combien celui qui peut garder la maison peut-il donner à celle qui s'en va. Et c'est ce genre de comptabilité qui vont être mises en œuvre dans les bureaux des notaires et des avocats.
Une comptabilité qui est prise en charge par la fiction.
Ok, je récapitule. Je rentre à l'heure que tu décides. Je parle au fils quand tu l'as décidé et je parle plus à ta mère. Autre chose ?
Je veux que tu partes.
Pourquoi ? Pourquoi je partirais ?
Parce que t'es plus chez toi.
Comment ça, je suis plus chez moi ? Viens voir. Viens. Regarde tout ça là. Le parquet, le plafond, les murs. Tout ça, c'est moi. Je voudrais que mademoiselle la princesse te le mette bien au fond de son petit crâne.
La princesse, elle t'a bien nourri, hein.
Parce que tout ça, c'est peut-être toi, mais c'est moi qui l'ai payé. Tu sais pourquoi? Parce que je bosse, j'économise. Je crée pas tout ce que j'ai.
Ouais, t'économises sur mon dos. C'est pourquoi? Parce que tu m'as toujours traité comme ton larbin. Comment tu les aurais fait, ces travaux-là, si je les avais pas fait avec mes mains?
J'avais peut-être pas l'argent, moi, mais j'avais un toit. Et toi, t'avais rien. Tu les aurais fait où, les travaux? Dans un appart que t'avais pas?
En gros, tu m'expliques que parce que t'es propriétaire, t'es aussi propriétaire des travaux. C'est ça que tu m'expliques. Tu sais quoi? C'est normal que tu penses comme ça. Tous les gens qui sont nés avec du pognon pensent exactement comme ça. Quoi? C'est faux que t'es né avec du pognon? C'est faux que t'as acheté cet appartement avec l'argent de tes parents?
Mais putain, mais c'est...
Dis que c'est faux!
C'est qui paye le crédit tous les mois? C'est toi, peut-être? C'est moi! C'est moi qui le paye tous les mois parce que je bosse! Les filles, vous venez. Alors oui, ok, j'ai pris l'argent. Mes parents m'ont donné de l'argent. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je refuse?
Un extrait de L'économie du couple de Joachim Lafosse avec Bérénice Bejo et Cédric Kahn, sorti en 2016. Le film retrace donc l'histoire d'un couple qui ne parvient pas à se mettre d'accord sur la part de la maison qui leur revient à chacun. Elle possède la maison et l'entretient avec son salaire, comme on l'a entendu. Lui y a fait des travaux conséquents. Pierre-André Chiappori, on voit bien dans cet extrait la difficulté à faire les comptes au moment de la rupture.
Oui, absolument. Oui, d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est l'inverse du cliché. Quoi. Là, c'est la femme qui est riche et c'est l'homme qui fait les travaux domestiques. Je trouve ça très très rafraîchissant, absolument.
Et sur l'évolution, Céline Bézière, justement, de ce rapport au patrimoine et de cette distribution entre les hommes et les femmes.
Alors moi, j'avais noté la même chose. J'aurais pas dit que c'était un cliché. C'est que quand on compulse de fait des centaines et des milliers de dossiers de divorce comme on l'a fait avec notre équipe, eh bien on constate que, de fait, la plupart du temps, ce sont les hommes qui sont plus riches. Et alors, ça arrive, bien entendu, comme dans l'extrait du film, qu'il y ait des femmes qui viennent de familles plus riches que leurs conjoints. C'est-à-dire qui ont hérité, alors que leurs conjoints n'ont pas hérité. Mais si on met bout à bout ces héritages, et ensuite les inégalités de revenus sur le marché du travail professionnel entre les hommes et les femmes, les 42% dont je parlais tout à l'heure, le fait que les femmes en moyenne gagnent 42% de moins que leurs conjoints. Et puis il y a aussi l'écart d'âge entre conjoints. On a un écart d'âge en moyenne de 3 ans entre les hommes et les femmes, ce qui fait que les hommes ont accumulé un peu plus avant de se mettre en couple. Et bien du coup, on est la situation qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire une femme qui a hérité, qui travaille alors que son conjoint n'a pas l'air de travailler. J'ai pas vu le film.
Il ne travaille pas, en effet.
Voilà, qui travaille et qui du coup paye le crédit. C'est une situation en fait assez exceptionnelle ou improbable. Dans la plupart des cas, ce sont les hommes qui ramènent davantage de revenus, donc qui peuvent payer le crédit. Et on entend dans l'extrait que cet homme a fait des travaux et qu'il aimerait que ces travaux soient comptabilisés. Mais en fait, il y a quelque chose qui est jamais comptabilisé dans les divorces. C'est précisément tout le travail domestique, c'est-à-dire tout ce que font ces femmes au jour le jour. Nettoyer les toilettes, préparer le repas, s'occuper des enfants, s'occuper des devoirs.
Installer une
étagère
sasmoneille, mais pas forcément... Voilà. Faire la cuisine le soir.
Et ça n'est pas pris en compte. Et ce qui n'est pas pris en compte non plus, c'est le coût d'opportunité de la prise en charge des enfants après une séparation. Donc ça va parler à l'économiste. Au moment d'une séparation conjugale en France, plus de 7 fois sur 10, ce sont les femmes qui ont ce qu'on appelle la résidence des enfants, c'est-à-dire les enfants vivent majoritairement chez elles. Ça induit un certain nombre de sacrifices professionnels en termes de... il n'est plus possible, si vous avez en charge vos enfants, de faire des heures supplémentaires le soir, peut-être vous n'allez pas avoir la promotion que vous alliez espérer. Donc,
disons que c'était déjà difficile avant, mais que ça allait encore plus.
Exactement. Et en fait, ça, ce coût d'opportunité en termes de carrière professionnelle et de revenus et d'investissement dans le travail professionnel n'est absolument pas tenu compte dans les mécanismes de compensation que pourrait être, par exemple, une pension alimentaire ou une prestation compensatoire.
Pierre-André Chiappori, vous êtes d'accord avec cette vision selon laquelle le divorce désavantage plus les femmes que les hommes?
Alors, d'une part, il est clair que pas tellement la législation d'ailleurs, mais l'application de la loi en France a des progrès à faire, même si on la compare à ce qui se passe dans d'autres pays. Mais je voudrais revenir sur cette notion des femmes qui touchent un revenu inférieur à celui de leur mari, donc les fameux 42%. Alors d'une part, ça s'explique par le fait que les femmes vont beaucoup plus souvent travailler à mi-temps. Et alors, il y a quelque chose de plus profond qui est que les choix professionnels des femmes reflète des contraintes qui sont liées à l'économie domestique. Donc, on en parlait là dans le cas de la séparation, mais c'est vrai même avant de la séparation, il y a une série d'études très intéressantes qui ont été faites par Claudia Goldin de Harvard, qui étudie les différences, alors qui rentre dans le détail des différences de salaire homme-femme, parce que ça, il y a cette idée d'inégalité de salaire. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le salaire des hommes, le salaire des femmes, et on dit, vous voyez, c'est scandaleux, c'est pas la même chose, sans tenir compte de la formation, de l'éducation, du niveau de responsabilité, etc. Alors en fait, ce qu'elle montre, c'est que une bonne partie de cet écart de salaire homme-femme à travail égal reflète le fait que les femmes vont, même à l'intérieur d'un domaine donné, par exemple le domaine médical, ou le domaine légal, enfin les cabinets d'avocats, etc., vont prendre des profils de carrière différents et que, pour une large part, le choix du profil de carrière va être lié à leurs obligations domestiques. L'exemple que donne Goldin, qui est très convaincant, c'est que dans un cabinet d'avocats, vous avez les très gros dossiers dans lequel vous devez à peu près être prêt à travailler nuit et jour, être prêt à prendre un avion pour aller à l'autre bout des États-Unis pour 3 jours, être réveillé au milieu de la nuit, travailler le week-end, etc.
Et là où ces différences sont compensées pendant la vie conjugale, elles se manifestent davantage au moment de la rupture, Pierre-André Caporini.
Non, mais de toute façon, même dans la vie conjugale, ce que vous voyez, c'est que ce genre de gros dossiers, c'est plutôt les hommes qui les prennent dans les cabinets d'avocats, alors que les femmes prendront plutôt les dossiers qui ont moins un caractère d'urgence, qui leur permettent de ménager leurs obligations domestiques, le fait qu'il faut s'occuper des enfants, etc. Donc, une bonne part des différences de salaire, c'est des inégalités qui ne sont pas sur le marché du travail. Ça reflète des inégalités qui sont des inégalités à l'intérieur du couple. Alors, évidemment, ça sort au moment du divorce, mais même que les 60% de couples qui ne divorcent pas, il y a quand même ça.
Hein. Céline Messière.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et du coup, le terme de choix, moi, m'interroge beaucoup. Parce qu'on parle de choix, de choix professionnel des femmes, du travail à mi-temps ou du travail à temps partiel, alors que c'est un choix, comme vient de le dire Monsieur Caporini, sous contrainte familiale extrêmement forte. Et dans les dossiers de divorce, ça nous a beaucoup frappé avec Sybille Golac, parce qu'on retrouve ça. On retrouve dans les argumentations menées par les uns et les autres cette interrogation du choix. S'agissait-il d'un choix de couple, ou bien s'agissait-il d'un choix personnel, parce qu'au moment des séparations, quand se pose la question en termes sonnants et trébuchants de compensation, de prestations compensatoires, de pensions alimentaires, eh bien on va dire aux femmes, c'était ton choix personnel de travailler à mi-temps. Et bien sûr, elles vont répondre, mais pas du tout, c'était un choix de couple, tu gagnais davantage que moi et je m'occupais des enfants. Donc en fait, ce terme de choix est piégé de part en part, ce qui est indéniable, c'est qu'il y a toujours une division du travail domestique et professionnel entre les hommes et les femmes.
Et puis une fois que la séparation est effective, que le divorce a été prononcé, il y a la question du versement des pensions alimentaires qui pose toujours un certain nombre de problèmes. Aujourd'hui, près de 40% des pensions sont impayées en partie ou dans leur totalité, selon l'ARIPA, l'agence de recouvrement des pensions alimentaires. Une agence qui a été créée en 2017 pour lutter justement contre le non-versement des pensions. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, Céline Bessière, c'est qu'on n'y arrive toujours pas. Comment est-ce qu'on l'explique, cela ?
Oui, alors sur le sujet des pensions alimentaires, les couples se séparent. Très souvent, jusqu'à tout récemment, ils passaient devant un juge qui fixait une pension alimentaire. Et dans près d'un tiers des cas, la pension alimentaire était nulle. On déclarait donc l'impécuniosité du père. Un tiers des cas, c'est quand même pas rien. Et on renvoyait les femmes vers la caisse d'allocation familiale pour toucher l'allocation de soutien familial. Dans deux tiers des cas, il y a une pension alimentaire qui est fixée. Et ce que on commence à documenter, c'est que une grande partie de ces pensions alimentaires ne sont tout simplement pas payées. Mais ce qui est commun à toutes ces femmes, c'est-à-dire celles dont l'ex-conjoint a été déclaré impécunieux et qui vont toucher l'allocation de soutien familial de la caisse d'allocation familiale, ou celles à qui a été attribuée une pension alimentaire, c'est qu'elles se retrouvent dans une position de demandeuse. De demandeuse de cette pension alimentaire une première fois, mais ensuite de demandeuse que cette pension alimentaire soit revalorisée, de demandeuse que cette pension alimentaire soit effectivement payée. Et là, dans cette mise en place de cette agence l'ARIPAP de recouvrement des pensions alimentaires, en fait, c'est toujours aux femmes en fait de faire la demande.
D'où le fait qu'il n'y aurait que 12% des victimes d'impayés qui se tourneraient vers cette agence, selon Terra Nova.
Exactement. Il faut toujours que ces femmes aillent demander quelque chose. Donc c'est soit demander quelque chose à leur ex-conjoint, soit demander quelque chose à la caisse d'allocation familiale.
Plus largement, Pierre-André Caporit, ce dont on se rend compte, c'est que la rupture, le divorce peut être régulièrement synonyme d'appauvrissement pour les femmes en France, en particulier quand il y a des enfants. Est-ce que vous diriez que c'est la même situation du côté des États-Unis ?
Ah oui, alors, si vous regardez l'évolution de l'inégalité aux États-Unis, presque un tiers de l'évolution d'inégalité au cours des 50 dernières années, Dieu sait qu'il y a eu une évolution d'inégalité, est liée à la montée des familles monoparentales. Et dans la grande majorité des cas, les familles monoparentales, c'est des familles dans lesquelles il y a une mère et les enfants, et le père est parti. Tout ça dépend énormément des niveaux de revenus. En fait, ce que on parlait des divorces, il y a beaucoup moins de divorces parmi en haut de la distribution de revenus qu'en bas. Et alors, le phénomène le plus frappant, c'est les mariages. Il est clair que il y a eu, pour les divorces, il y a eu une grosse augmentation des divorces dans les années 70, pendant les 20 ans qui ont suivi. Maintenant, le taux de divorce est à peu près constant. Ce qui a en revanche énormément baissé, c'est le nombre de mariages. Et là, vous voyez une différence extraordinaire suivant les revenus et les niveaux d'éducation. Les gens les plus éduqués se marient un peu moins, mais continuent à se marier beaucoup. Si vous prenez les gens qui n'ont aucune éducation, c'est-à-dire qui n'ont même pas fini leurs études secondaires, vous avez une proportion incroyable, une proportion de l'ordre de 60% des hommes qui ne se sont jamais mariés. Donc, et en général, d'ailleurs, ça veut dire qu'il va y avoir une grande proportion de femmes qui auront des enfants, mais qui auront des enfants seules.
Et ce que disait Gary Becker, c'est que les plus riches ne divorçaient pas parce que le divorce leur coûtait trop cher.
Alors, le divorce leur coûtait trop cher, mais c'est pas un coût financier, c'est pas qu'il faut beaucoup payer les avocats, c'est que tous les bénéfices du mariage, les bénéfices économiques, le fait de pouvoir partager le risque, le fait d'avoir des biens publics, le fait de passer du temps avec les enfants, etc., sont d'autant plus élevés que vous êtes riche. Donc, renoncer aux bénéfices économiques, c'est plus coûteux quand on est riche.
On arrive au terme de cette émission. J'aimerais vous entendre l'un et l'autre conclure autour de ce sujet de l'économie du couple. Est-ce que vous diriez, Céline Bessière, que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un éclatement qui serait à la fois économique et sentimental? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la situation actuelle?
Non, moi je dirais que, pour conclure, que c'est intéressant d'aller regarder ce qui se joue dans l'économie au sein de ces couples. C'est important de le faire en ne regardant pas seulement l'argent, les comptes en banque, mais d'aller regarder au fond, c'est-à-dire aussi qui possède quoi, d'aller regarder les appartements, les maisons, les entreprises, d'aller regarder en fait la richesse et ce constat de l'appauvrissement des femmes qui devient totalement manifeste au moment des séparations conjugales, on peut dire que en fait c'est le moment où apparaît l'inégalité qui s'est écreusée pendant la vie en couple. Donc si je voulais synthétiser, je dirais que au cours de la vie en couple, les femmes travaillent et n'accumulent pas beaucoup, les hommes travaillent peut-être même un peu moins et accumulent davantage, et ça devient manifeste au moment des séparations.
Pierre-André Caporit.
Alors, moi, j'aurais une vision assez optimiste. Tout ce qu'on a dit était vrai, l'est toujours, mais la répartition des pouvoirs à l'intérieur du couple est en train de bouger. Le fait que vous ayez beaucoup de couples dans lesquels les femmes sont plus éduquées que leurs maris, vous avez de plus en plus de couples dans lesquels les deux travaillent à plein temps, etc. Donc, c'est un phénomène qui était là. La spécialisation, les femmes font beaucoup plus de travail domestique, etc. On est en train de s'en éloigner, on est en train de s'en éloigner doucement, mais moi je suis très très optimiste sur l'avenir, parce qu'on a une montée en puissance des femmes, et une montée en puissance qui est d'abord, au sens chronologique, une montée économique, qui va inévitablement se traduire par une modification des rapports de force.
Eh bien c'est sur cette note optimiste que l'on va se quitter. Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho présenté par Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Un pas de plus vers le lancement de la monnaie virtuelle de Facebook avec la création officielle hier de l'association Libra. Pourtant ce projet inquiète et l'entreprise doit montrer patte blanche.
Oui, montrer patte blanche d'abord avec des garants. 21 partenaires pour cette Libra association créée à Genève. 21 au lieu de 100 cependant initialement prévus. Et après la défection de partenaires importants comme Visa, Mastercard ou PayPal, problème alors que chacune de ces entreprises est censée investir dans la Libra au moins 10 millions de dollars. La Libra, cette nouvelle monnaie virtuelle qui se veut au départ un moyen de paiement sur les services Facebook. Du côté de Facebook, le secrétaire général de l'association minimise. Il nous aurait ralenti, dit-il. Et puis c'est vrai qu'il reste des poids lourds financiers de Uber aux ONG en passant par Vodafone. Mais les autorités de régulation financière se méfient d'une part de Facebook et puis ensuite d'un moyen de paiement opaque, voire même d'une monnaie Facebook complètement incontrôlable, à la fois trop importante et trop fragile. Bref, beaucoup de risques potentiels, explique Philippe Ruimi. Il est économiste et professeur à Sciences Po Paris.
En fait, la défection de sociétés, notamment de sociétés de paiement, illustre la volonté des autorités, le fait qu'elles ne soient pas satisfaites du plan développé par Facebook, eu égard notamment au financement des activités criminelles, au blanchiment de capitaux, aux activités terroristes, et en même temps la déstabilisation éventuelle du système financier. Donc elle n'a pas donné de garantie. Pour d'autres sociétés qui restent, c'est tout à fait un projet viable. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est tant que Facebook n'a pas rassuré sur son modèle, et bien concrètement, elle ne peut pas diffuser plus largement cette monnaie qui pourrait avoir lieu. Parce que Facebook, c'est 2 milliards 3 d'utilisateurs. Imaginez que même si vous avez 500 millions de personnes qui perdent leur rapport parce que du fait de la faillite de Facebook, ça risque de créer un choc. Du jour au lendemain, si Facebook a des difficultés financières, vous n'avez aucun moyen de pouvoir vous retourner pour dire, ben voilà, je voudrais avoir des euros ou des dollars, sans considérer éventuellement, si on veut faire un choix, s'il y a une certaine défiance vis-à-vis de Facebook, le change de la Libra en monnaie réelle comme le dollar ou l'euro risque de perturber totalement la politique monétaire.
Michel Ruimi, professeur à Sciences Po Paris. Le lancement de la Libra pourrait être reporté après 2020, Xavier, et entre-temps, les États travaillent aussi sur leur propre monnaie virtuelle.
Des monnaies là émises par les banques centrales. Bruno Le Maire l'avait évoqué comme un facteur d'aide à l'innovation. La Banque centrale d'Angleterre travaille dessus. La Chine, un temps leader, tente aussi de reprendre la main avec des rumeurs sur un lancement le 11 novembre. Et puis Facebook n'est pas seul à inquiéter. Hein. La levée de fonds d'1,7 milliard de dollars de Telegram, la messagerie instantanée pour sa monnaie Gram, vient aussi d'être bloquée vendredi par la justice américaine. Officiellement, elle n'avait pas enregistré son offre auprès des autorités de régulation.
On passe au bref avec des sanctions économiques limitées imposées par les États-Unis à la Turquie.
Alors, outre le gel des avoirs de trois ministres énergie, défense et intérieur et des interdictions de visa, Donald Trump suspend la négociation d'un accord commercial à 100 milliards de dollars, dit-il. Il rétablit des droits de douane élevés sur l'acier à 50% comme il l'avait fait en 2018. À l'époque, cette mesure avait contribué à faire plonger la livre turque. Même si le président américain répète dans son communiqué qu'il pourrait, je cite, détruire totalement l'économie turque, si Ankara continue son offensive, ces mesures sont quand même en deçà de ce qu'avaient préparé les sénateurs américains.
Et pour finir, les autorités européennes sollicitées par les ministres français.
Avec là deux annonces, Bruno Le Maire qui dans son discours sur le pacte productif propose une taxe européenne sur les carburants des avions et bateaux. Idée ancienne, la Commission européenne avait proposé en mai une taxe écologique de 33 centimes par litre de kérosène. Autre proposition hier, celle du ministre de l'Agriculture Didier Guillaume à Luxembourg qui a officiellement demandé avec l'Espagne et l'Italie à la Commission européenne des mesures d'accompagnement pour la filière vinicole confrontée aux taxes américaines de 25% qui entreront demain en vigueur.
Yeah.
Bayana de Baker Matt. Merci beaucoup Pierre-André Chiappori et Céline Bessière d'avoir exploré avec nous le marché de l'amour. J'indique que France Culture est partenaire de l'exposition De l'amour qui se tient en ce moment au Palais de la Découverte jusqu'au mois d'août. Exposition scientifique qui interroge la naissance du sentiment amoureux et la puissance de l'attachement. Demain, nous nous pencherons sur le travail en famille et ses conséquences sur les femmes en particulier. D'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.